Sushi. Sampasak FM.
From your destiny and in my dreams, all I see is you, you. All I wanna feel is free with you. Yeah, in my dreams, all I see is you, you. Are you real? Am I living the truth?
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Quelques fois la nuit, je me réveillais et puis je me disais, qu'est-ce que je dois faire, hein? Bon, voilà, mais enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Quelques fois, ça a été bien, d'autres fois, ça ne l'était moins. Le premier titre que j'ai donné à mon livre, c'était « Combat intérieur ». Il y avait deux mois, il y avait le mois qui était partisan de l'indépendance des peuples coloniaux, comme j'ai été partisan de l'indépendance de mon pays contre l'occupant allemand, et puis il y avait le mois qui était le soldat qui devait obéissance, parce que j'avais pas fait de serment solennel comme font les Américains, mais j'avais un serment moral qui valait la même chose, hein, et je devais donc pas trahir en faisant quelque chose ostensiblement qui était contre les ordres qui m'étaient donnés. Je faisais partie intégrante de l'armée d'occupation, hein, d'un pays qui voulait sa libération, hein, j'en avais tout à fait conscience, mais mon devoir de soldat, ou alors il fallait que je quitte l'armée à ce moment-là. Mais c'était pas d'une part les instructions qui m'avaient été données par le Parti communiste, mais je m'en cache pas, hein. C'était pas non plus ma conviction profonde qui était que des cadres d'extraction populaire devaient rester dans l'armée et se substituer progressivement aux cadres de l'armée de caste de jadis.
Salut tout le monde, c'est aujourd'hui le 11e et dernier épisode de notre série d'entretiens avec Pat, Pierre, Alban, Thomas, dont vous suivez peut-être le parcours dans cette émission. Depuis ses contacts avec le réseau de résistance du Musée de l'Homme en 1940, jusqu'à la guerre d'Algérie, en passant par le maquis FTP de 43, la campagne d'Allemagne et la guerre d'Indochine. Salut Pat.
Salut Jean-Baptiste.
Cela fait déjà 10 émissions que tu nous racontes ce que tu as vécu au fil de 20 années d'une histoire de France obscure que l'on raconte assez mal, voire pas du tout. Et c'est justement notre thème aujourd'hui. Ce que tu dis, notamment sur la guerre d'Algérie, mais généralement sur le colonialisme et le sale rôle qu'on a fait jouer à l'armée, ne t'a pas valu que des amis. Il y a des tas de gens qui sont furieux contre toi, qui te traitent de menteur, de traître, depuis que tu as sorti tes 3 livres et que tu as participé à l'ennemi intime, le documentaire de Patrick Rothman. Car ce que tu racontes sur ces guerres coloniales est tabou. La guerre d'Algérie fait encore souffrir des consciences, notamment celle des 1 300 000 jeunes gens qu'on a forcés à combattre et parfois à commettre des atrocités, sans parler des 25 000 d'entre eux tués en Algérie entre 54 et 62. Cette histoire qui ne se raconte pas, tu es l'un des rares à la raconter et cela ne plaît pas à tout le monde. Alors avant que tu nous expliques comment, après 40 années de silence, tu t'es, un jour de 98, décidé à dire ce qui ne se dit pas, nous allons retourner en musique vers l'année 1962, dernière année d'une guerre civile qui a laissé de si mauvais souvenirs de part et d'autre de la Méditerranée.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons.
Et le soir même à l'Élysée, le général de Gaulle pouvait annoncer aux foules françaises: la perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France.
De l'AI, de la deuxième compagnie du GT 543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte.
Bonjour à toute la famille, et à tous les amis du Havre. Amis,
et particulièrement ma fiancée Eliane.
Français, Françaises, cessez le feu. Livre à l'ennemi des terres françaises vient d'être consenti.
Souvenir, souvenir des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris.
J'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France.
Il est midi, je quitte ma cuisine pour venir embrasser mes parents. Le soleil brille. Le moral est bon, je vous embrasse tous affectueusement.
Tout va bien et j'espère bientôt vous revoir à la quille.
Fait de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents et à Perpignan des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens.
Ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond est dû au peuple français, car c'est lui qui, par son bon sens, sa solidité, sa confiance, a permis que mûrisse, puis aboutisse la solution.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis.
1962, enfin la fin de la guerre d'Algérie avec en juillet la signature des accords d'Évian. Les Français avaient majoritairement voté oui au référendum sur l'autodétermination. Mais 1962 n'en est pas moins une année de guerre civile follement meurtrière. Notamment avec les pieds noirs fanatiques de l'OAS qui pratiquent une politique de la terre brûlée en Algérie et frappent aussi la France. En 62, ce ne sont pas des islamistes qui attaquent des journaux français.
Dans Paris comme en Algérie, la série des plastiquages continue. Aux Champs-Élysées même, hier encore, simple exemple entre des dizaines d'autres, Le Figaro était la victime d'un de ces attentats. Si ces manifestations marquent une volonté de gêner la signature des accords, elles n'influent en rien sur la détermination du général de Gaulle qui a appelé à l'Élysée les principaux chefs des circonscriptions militaires pour leur préciser leur mission à la veille d'un cessez-le-feu.
La fin de l'Algérie française et de cette épouvantable guerre civile. Il y aurait beaucoup à dire sur la souffrance des pieds noirs. Enfants et petits-enfants d'immigrés espagnols, italiens, maltais, qui quittent leur terre d'Algérie où ils sont nés tout autant que les Français musulmans qui deviennent, eux, des Algériens.
La cadence des retours d'Algérie s'est accrue cette semaine. C'est presque 8000 retours quotidiens, a annoncé le secrétaire d'État aux rapatriés, M. Boulin, que nous décomptons maintenant. Femmes et enfants forment la majorité de ces retours qui, en général, après un passage au centre d'accueil, se dispersent pour retrouver un toit dans leur famille ou chez des amis métropolitains, en attendant que l'avenir leur désigne leur chemin. Établissement en France ou rentrée en Algérie, où ils retrouveront un pays qu'ils aiment, où ils ont tant fait déjà.
Les livres d'histoire nous parlent d'un million d'Européens pieds noirs qui retournent dans une métropole où la plupart n'ont jamais mis les pieds. C'est faux, évidemment. En 62, une majorité de pieds noirs se sent obligée de partir alors que les accords d'Évian prévoient qu'ils peuvent rester en Algérie. C'est d'ailleurs ce que feront 200 000 d'entre eux. On ne le dit jamais, un cinquième des pieds noirs sont restés en Algérie après 62. Les autres sont terrorisés. Notamment les assassins de l'OAS qui ont du sang sur les mains et leurs familles. Pour cela, effectivement, c'est la valise ou le cercueil car le FLN ne fait pas dans la dentelle. Mais pas pour les autres. Moi qui vous parle, mes grands-parents et leurs enfants sont restés en Algérie jusqu'en 64, 2 ans après l'indépendance. J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, mais jamais rien à propos de la valise et du cercueil. un fait que certains veulent généraliser à toute la communauté pied-noir. Si ceux qui sont restés sont, au fur et à mesure, allés en métropole, c'est notamment parce que les Algériens leur ont bien fait sentir qu'ils n'étaient effectivement pas désirés. Et comment faire une vie, construire dans un pays miné par l'archaïsme et le népotisme de médiocres affairistes qui ont confisqué l'indépendance? Beaucoup de vieux pieds noirs ont fini par aller en France lors de la guerre civile algérienne des années 90. Autre guerre civile, fille de la précédente, accouchée par un pays raté. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les harkis, ces Algériens musulmans qui avaient choisi la France de gré ou de force, bien mal récompensés de leur loyauté, lâchement abandonnés par la France et massacrés par le FLN par milliers, ou, pour les rescapés, parqués dans des camps de métropole et traités comme des bougnioules par les uns, comme des traîtres par les autres.
Un groupe de 600 harkis est arrivé à Millau cet après-midi.
Au long du parcours, à Nîmes, à Béziers, comme à Millau, la Croix-Rouge et diverses associations locales d'entraide avaient délégué leurs membres pour apporter des boissons et des casse-croûtes à ces musulmans qui servirent sous notre drapeau et qui ont voulu aujourd'hui revenir en métropole. Charriant de lourds sacs, les hommes, pour la plupart, portaient encore la tenue militaire. Les enfants et les femmes, dans leurs vêtements colorés mais aux teintes délavées, traînaient de maigres baluchons et arboraient de pauvres bijoux de pacotille. Y a-t-il longtemps que vous servez dans l'armée française?
Depuis 57.
Et vous?
Depuis 57.
Et est-ce que vous êtes marié?
Oui.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'en ai deux.
Est-ce qu'ils vous accompagnent aujourd'hui?
Oui.
Est-ce que vos parents sont restés en Algérie?
Non, c'est mieux, parce qu'on a peur de faire la guerre.
La guerre d'Algérie a duré 2765 jours et 2765 nuits.
Revenons-en à Pat, qui, au début de l'année 62, entame la 9e année de la guerre d'Algérie. Des patrouilles, parfois rien à signaler, parfois des accrochages, la routine.
Mais j'ai pas de tirer pas.
Qu'est-ce qu'il y a tiré, là? Qu'est-ce qu'il y a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que vous avez vu? Où est-ce qu'ils sont, là? Derrière cet arbre? C'est que ce merde, là. Vous les avez vus, derrière l'arbre?
Un pan de vie symbolisé par une grande photo noir et blanc accrochée dans le bureau de Pat. 9 années de guerre en un seul cliché.
Il a été pris au cours de mon deuxième séjour, hein, c'est-à-dire 1960, oui. Puisque mon deuxième séjour a commencé en 59 et s'est terminé en 62. Le premier ayant été de 54 à 57. Le second, oui, de 59 à 62, donc ça, le cliché a été pris en 60, à peu près. L'un de mes chasseurs, hein, puisqu'on les appelait des chasseurs, hein, c'était des soldats, mais qui avaient le titre de chasseur à pied ou chasseur porté par la suite, hein. Ce garçon, quoi, qui était un de mes hommes de troupe, était photographe de profession, excellent photographe, et il avait pris un certain nombre de photos, et celle-là m'avait particulièrement plu. On est dans un douar qui s'appelle le douar des Amarias, et qui se trouve à peu près à 8 km à l'est du village de Dublino, mon lieu d'implantation lors de mon deuxième séjour entre Oran et Mascara. Et donc, on voit sur cette remarquable photo, on voit les mechtas en pisé, recouvertes les unes de paille, les autres de tôle. Celles au moins qui sont recouvertes de chaume sont bien isolées du froid et de la chaleur. Celles qui sont recouvertes de tôle, évidemment, sont épouvantablement froides l'hiver et brûlantes la nuit. Mais enfin, ça, c'était surtout... Dans les villages de regroupement, c'était uniquement ça, hein, les villages de regroupement, c'était des villages constitués par des murs en parpaing et puis des tôles. Alors là, c'était effroyable, effroyable. Bon, alors là, donc, on voit ces maisons, et puis on voit un troupeau de chèvres et de moutons avec quelques soldats qui patrouillent autour. C'est symbolique d'une action quotidienne que nous avions amenée.
Patrouille?
Oui, c'est une patrouille, oui. Oh, ben là, on voit bien que personne n'est menaçant, hein, ni les Algériens qui subissent, ni nous qui sommes l'arme à la bretelle, hein, ou l'arme
pas la main, mais d'une façon très pacifique. Hein. Il n'y a aucune menace de part et d'autre.
Pat ne nous a pas encore parlé de ces camps de regroupement où l'on concentre des populations qu'on a chassées de leur village, devenues des zones interdites où l'armée tire sur tout ce qui bouge.
Je sais comment une zone devient interdite, parce que je l'ai vécu. Hein.
Extrait de L'ennemi intime de Patrick Rothman.
Il y a eu une ou deux attaques de convoi, quelques morts, et puis l'état-major dessine un trait. Cette zone, elle est interdite, vous tirez sur tout le monde. Mais les gens qui sont là-bas, ils savent pas, c'est pas une zone interdite pour eux. Ils habitent là, ils ont leur chef, leur champ, et puis ils comprennent que c'est une zone mortelle. Eh bien, c'est quand il y a des militaires qui passent, et puis le gars est en train de labourer son champ, il le mitraille.
Eh bien, ces scènes de guerre auxquelles vous venez d'assister, elles sont la réalité quotidienne pour des centaines de gars de chez nous, militaires, français, sur la frontière algéro-tunisienne, sur ce fameux barrage électrifié que M. Bourguiba a appelé au cours d'une récente conférence de presse le barrage qui tue.
Quelque chose qui est étonnant dans cette guerre d'Algérie, qu'à l'époque on appelle événement hein, d'Algérie, cette guerre ne deviendra officiellement une guerre qu'en 1999, avec une loi qui sera votée pour décider de statut de guerre à ces événements. Ce qui est étonnant, c'est que sur le terrain, les militaires français ont la mainmise du terrain. Cette frontière électrique et de fil fer barbelé qu'on a appelée la ligne Maurice, qui marque la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, s'est avérée redoutablement efficace avec le temps, très étanche.
Vous voyez là, sur cette carte, la frontière entre la Tunisie et le barrage en gros trait. C'est ce barrage que nous avons suivi depuis la Méditerranée, c'est-à-dire depuis Beaune, jusqu'au désert, c'est-à-dire jusqu'à Négrine.
Les troupes françaises tiennent le terrain. On pourrait dire, en 1962, que militairement, la France a gagné la guerre, gagné sur le plan diplomatique par les Algériens, mais militairement. Ah, tu ne sembles pas d'accord avec cette analyse.
C'est ce qui est dit dans les livres d'histoire par des témoins de l'époque, haut placés, haut gradés. Mais moi, je ne suis pas d'accord, hein, parce que nous avions l'impression de tenir le terrain. Effectivement, lorsqu'il y avait des affrontements avec des Katibas, on sortait généralement vainqueur. Mais ça ne voulait pas dire qu'on avait gagné la guerre. On avait gagné des victoires, oui, mais on n'avait pas gagné la guerre. Parce que la nuit, c'était le FLN qui avait davantage d'autorité que nous sur les populations. Bien sûr, on triomphait, on donnait l'impression d'avoir gagné. Mais pour gagner, il faut avoir gagné les cœurs. Gagner les cœurs. On ne les avait pas gagnés. C'est pas vrai.
Nous ne faisons pas la guerre ici. Nous cherchons à gagner. Ou plutôt à regagner les cœurs et les âmes. C'est ça qu'il nous faut conquérir.
Et les félagas, ils existent, ceux-là?
Eh oui, bien sûr. Et voilà leur travail, détruire et tuer.
Les Algériens avaient, à mesure du temps, fait le choix entre les Français et le FLN. Et ils étaient beaucoup plus nombreux à avoir fait le choix du FLN que des Français.
Pourtant, il est dit à un moment dans ton livre que l'efficacité de la ligne Maurice est avérée et qu'il y a des unités combattantes à ALN qui sont bloquées en Tunisie, des stocks d'armes qui n'arrivent pas à passer et à arriver au maquis. Mais ce que tu dis, bon, il suffit pas juste de tenir les routes, la poste centrale et la gare. Gagner une guerre, c'est plus que ça.
Ouais, ça n'empêche pas, hein. Nous avions l'impression, nous donnions l'impression d'avoir gagné la guerre. Eh bien, ça incluait le fait que le barrage de la ligne Maurice et puis celui de la ligne, il portait pas de nom, mais enfin, de la frontière marocaine était efficace, que les troupes qui étaient prévues pour venir à l'intérieur de l'Algérie renforcer les maquisards ne passaient pas. C'est vrai, mais est-ce bien vrai que ces troupes ne passaient pas à cause de la ligne Maurice? Je ne suis pas persuadé. Parce que ces troupes étaient de plus en plus nombreuses et aguerries de l'autre côté, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, elles représentaient une puissance aux yeux du monde, aux yeux des autorités internationales.
peut-être plus que si elles avaient été à l'intérieur et tripées par les troupes françaises. Elles étaient l'arme au pied, c'est certain, et il valait peut-être mieux laisser ceux qui se trouvaient à l'intérieur, même s'ils avaient l'impression d'être abandonnés par leurs frères de l'autre côté de la frontière, il valait peut-être mieux pour la notoriété de l'ALN qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire une troupe présentant bien, nombreuse, encadrée, bien armée, qui aux yeux de l'opinion internationale jetait du jus, alors que si ils avaient été envoyés à l'intérieur, ils auraient eu des dégâts et ils auraient constitué des ordres plus ou moins en débordade.
L'armée française ne va évidemment, et le contribuable d'ailleurs, involontairement, ne vont pas lésiner sur les moyens. Blindés, mitraillage de population civile. L'armée française va même jusqu'à envoyer des avions bombardés en Tunisie. Il y a plusieurs affaires tunisiennes d'ailleurs.
Si Dissaket, je ne sais plus comment, c'est pas exactement ça, mais enfin c'est un nom comme ça, c'est une petite enclave qui se trouve sur la frontière algéro-tunisienne. C'est un lieu de passage pour les troupes de l'ALN venant en Algérie. À la suite du bombardement par l'aviation française, des troupes de l'ALN qui se trouvaient dans cette enclave, l'ALN a fusillé trois jeunes Français qu'ils avaient fait prisonniers. Et c'est ça ce qui a déclenché l'insurrection à Alger à ce moment-là.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain à partir de 12h.
L'une des choses tristes, il y en a beaucoup dans l'histoire de cette guerre d'Algérie, ça donne l'impression que le peuple algérien n'aura pas joui de son indépendance. Une poignée d'apparatchiks du FLN vont mettre la main sur le pouvoir pour ne plus le lâcher. Mais finalement, la situation des gens ne va pas beaucoup s'améliorer, quoi. Il y aura toujours autant de misère et de corruption, à part que c'est plus les mêmes qui s'en mettent plein les poches.
Oui, je me souviens plus qui a dit que l'indépendance qu'on leur avait accordée était un cadeau empoisonné. Parce qu'ils ont pris des méthodes qu'ils avaient acquises au cours de la période coloniale. Et puis, ils les ont appliqués à leur peuple. Hein. Quand je dis « ils », sont les chefs FLN. Ils ont, en somme, trahi la cause qui aurait dû être la leur, d'une indépendance fraternelle entre tous les Algériens d'origine. Et ça n'a pas été le cas.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte des civils. Remets du rime et la tessile, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril, à 5h au petit jour, que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Cette série d'interviews qu'on fait ensemble, je réponds à tes questions, mais quelquefois, je suis à peu près sûr que je commets de petites erreurs sur les dates, les fêtes. Je dis ça comme ça, à brûle-pourpoint de mémoire, mais ceux qui risquent d'entendre ça peuvent dire « mais c'est pas vrai, c'est pas exactement comme ça ». Et ça, je le reconnais volontiers. Pour avoir les éléments exacts, il faut se reporter à mes livres qui, eux, sont sûrs, parce que là, je n'ai rien écrit qui ne soit contrôlé par les dires des uns et des autres. J'ai même des preuves écrites d'amis auquel j'ai présenté mes brouillons, mes manuscrits, de façon à être certain de ne pas dire de bêtises. Mais là, au cours de l'entretien, j'en dis certainement. Hein.
On peut se référer à trois livres que tu as sortis. Le premier, Le combat intérieur de la résistance jusqu'à l'Indochine. Ensuite, Les désarrois d'un officier en Algérie. Et complété avec Pour l'honneur de l'armée, sorti également chez l'Harmattan, comme le précédent, qui est une réponse au général Schmitt qui t'avait insulté sur un plateau de télévision et tu n'avais pas pu répondre puisque toi tu n'étais pas présent sur ce plateau.
Oui, je veux quand même préciser une chose. Combat intérieur, c'est le premier que j'ai écrit en 1998. Mais il n'a été tiré qu'à un nombre restreint, je crois 1000 exemplaires, me semble-t-il me souvenir. Et puis l'éditeur a fait faillite très rapidement et puis il a emporté tous les clichés avec lui, il a disparu. Bon, alors j'ai donc pas pu le faire rééditer. Et c'est pourquoi je me suis tourné vers l'Harmattan pour demander s'ils voulaient le rééditer. Et ils l'ont fait avec des modifications, avec des ajouts, avec des précisions, sous le titre de la résistance à l'Indochine, car m'ont-ils dit combat intérieur, c'était quelque chose de trop vague, enfin m'a dit l'éditeur l'Harmattan, c'était quelque chose de trop vague et qui pouvait s'adapter à des situations autres que la guerre, aussi bien dans la résistance qu'en Indochine. De la résistance à l'Indochine, c'était beaucoup plus parlant.
Première parution en 1998. Pourquoi avoir attendu presque 40 ans avant de témoigner? 40 ans de silence.
Parce que en 62, j'en éprouvais pas le besoin. On était là de cette guerre, là de ces dissensions qu'il avait pu y avoir entre Français et Algériens, entre Français entre eux, entre Algériens entre eux. Et ça faisait un petit peu comme les déportés en 45 qui revenaient, qui étaient là de tout ce qu'ils avaient supporté, qui était bien pire que ce qu'on avait supporté nous, mais enfin, à plus forte raison pour eux. Ils sont restés silencieux très longtemps jusqu'à ce que certains disent il faut absolument que ces choses-là se sachent. Et là, ça a fait boule de neige. Tout le monde s'est mis à parler, à raconter ses aventures et ses grands malheurs pendant la déportation. Alors nous, c'était la même chose pour l'Algérie. Le déclic a été donné par Louisette Iguilariz, qui est une Algérienne qui avait été mise en cause par les paras français et qui a été la malheureuse fille mise plus bas que terre parce qu'elle était algérienne et faisant partie du FLN. Et elle a dévoilé tout ce qu'elle avait subi, les tortures et tout ça. Elle a vidé son sac. D'autres ont fait pareil. Là aussi, ça fait boule de neige. Tout le monde s'est mis à parler, plus ou moins. Moi, j'ai écrit à ce moment-là mes souvenirs d'Algérie. D'autres, surtout des appelés d'ailleurs, ont écrit les leurs.
Heureusement que tu peux te fier à des carnets de route que tu as plus ou moins scrupuleusement tenues et en Indochine et en Algérie. Donc tes notes et tes remarques sont assez précises.
Oui, mon grand désespoir, c'est de ne pas avoir tenu un carnet de route au jour le jour, en particulier en Allemagne, parce qu'en Allemagne, j'ai rien tenu du tout. Ce ne sont que mes souvenirs que j'ai rapportés tout de suite après la guerre. Mais en Indochine et en Algérie, j'ai pris des notes épisodiquement, au jour le jour. Et puis j'ai écrit des lettres à ma mère et à ma fiancée en Indochine et à ma femme en Algérie, qui sont pour moi des témoignages irréfutables, puisque c'était mes impressions et mes constatations du moment qui étaient traduites sur mes carnets et sur mes lettres. C'est surtout après la guerre, assez longtemps après, que j'ai dévoilé pas mal de choses que j'avais gardées secrètes pour moi. Ce que j'ai dévoilé d'une façon la plus évidente, c'est dans le film « L'ennemi intime » de Patrick Rothman, où là je me suis vraiment libéré complètement dans l'an 2000.
Je suis parti en pensant que les départements d'Algérie étaient des départements français et que les Algériens voulaient fermement être français, je le croyais.
Ancien résistant, maquisard, proche du Parti communiste, le capitaine Pierre-Alban Thomas est resté dans l'armée après la libération. Il a combattu en Indochine, non sans débat intime. Il ignore tout de la situation et de l'histoire algérienne.
Le film est sorti, je crois, en 2002, il me semble. Et il a donné lieu à une présentation en trois volets. Après le troisième volet, il y a eu un débat entre un certain nombre de personnages qui se trouvaient impliqués là-dedans. Il y avait bien entendu Patrick Rothman, mais il y avait aussi le général Schmitt, qui était l'un des principaux personnages qui apparaissait dans ces différents volets. Moi, je n'ai pas été invité, je n'ai donc pas pu donner mon point de vue, mais Schmitt, lui, ne s'est pas gêné pour donner le sien. En particulier, il m'a traité de toutes sortes de noms d'oiseaux, traître, triste sire, menteur, un faux témoin. J'étais pas tout seul, d'ailleurs, dans son collimateur, lui, puisqu'il y avait d'autres témoins qui étaient incendiés de la même façon. J'ai demandé un droit de réponse télévisé, radiophonique, ça, tout m'a été refusé. Je me suis rabattu sur l'écriture et j'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Pour l'honneur de l'armée, réponse au général Schmitt ». Alors là-dedans, je lui dis toutes ses vérités. Je n'ai jamais entendu de réaction, non, ni de sa part, ni de celle de ses amis.
Dans ton livre « Pour l'honneur de l'armée », j'ai été très touché par l'histoire de cet ancien combattant français-algérien qui, avant de se faire assassiner par un soldat français, tient absolument à épingler sa médaille militaire sur le torse pour se faire fusiller.
Attendez! Ma médaille! Vous pouvez y aller maintenant!
Oui, ça, c'est l'histoire de Raymond Cloarec, avec lequel je suis entré en relation vers les années 2002-2003, et qui a témoigné auprès de Florence Bauger, qui a écrit un livre remarquable sur l'Algérie. Florence Bauger, ayant appris que Raymond Cloarec avait des choses intéressantes à dire, l'a interviewé et il lui a raconté des choses incroyables, hein. Je dis bien incroyable, mais vrai, puisqu'il n'a jamais été démenti. Il a déposé toutes ses accusations, tous ses témoignages au fort d'Ivry, dans un site qu'il a créé à son nom, sur lequel il y a tous ses témoignages. Et il a fait le compte, il est arrivé au nombre de 75 Algériens qu'il a abattus ou fait abattre par son groupe, sur ordre de ses chefs. Son chef principal étant Bijard, qui commandait le régiment auquel il appartenait, le 3e RPIMA, ou RPC avant. Et Cloarec était un dur de dur, du temps où il était sous-officier au 3e RPIMA, et après il a eu des remords de tout ce qu'il avait fait, et c'est là qu'il a décidé d'écrire ses mémoires. Il était extrêmement courageux d'en faire un récit détaillé qu'il a déposé au fort d'Ivry, aux archives militaires. Il a donc témoigné pour le livre de Florence Bauger. Il a dit, non seulement j'ai fait fusiller ou massacrer des habitants de Mechta sur ordre de mes chefs, mais un jour, on m'a désigné un félaga pour le liquider. Alors il dit, je l'ai emmené avec moi. C'était un ancien combattant de l'armée française, mais qui avait pris les armes au sein de l'ALN. C'était un véritable combattant de l'ALN. Il était considéré comme traître par l'armée française. Il fallait qu'il soit liquidé. Et c'est Cloarec qui a eu la mission de le faire. L'autre s'est bien rendu compte de ce que j'allais faire. Il s'est dit, tu vas me tuer, hein? Alors Cloarec lui a dit oui. Eh bien, il dit, écoute, il dit, tu vas me tuer puisque c'est l'ordre que tu as reçu. Mais avant, fouille dans ma poche, dans la poche de mon veston, à tel endroit, tu vas trouver la médaille militaire que j'ai acquise au cours de la campagne d'Italie. et tu vas l'accrocher au revers de mon veston avant de me fusiller. » Et il dit, je lui ai logé 2 balles dans la tête, et dit, son regard me poursuivra toute ma vie. Voilà la déclaration de Cloarec. Bien entendu, Cloarec, il n'est pas en honneur de sainteté auprès des anciens parachutistes et puis des cadres de l'armée française en général. Il a eu des menaces de mort de la part de certains durs, mais il est d'un courage exceptionnel puisqu'il continue à tenir tête à tous ses détracteurs, et il habite Nice et il a constitué un réseau d'aide aux Marocains, parce qu'il y a pas mal de Marocains là-bas, pour leur venir en aide, pour se racheter un peu de ce qu'il a fait contre leurs frères en Algérie.
Et toi, dans les associations d'anciens combattants, es-tu en odeur de sainteté?
Ça dépend lesquelles. Au sein de la FNACA, parfaitement. Parce que ils ont toujours été opposés à cette guerre d'Algérie, cette sale guerre. Mais si c'est avec des associations de pur et dur de l'armée, évidemment, ça, je suis pas le bienvenu. Hein. La preuve avec Schmitt, dont je parlais tout à l'heure. Hein. Schmitt, mais il y en a bien d'autres du même type. Hein. Il y a le colonel Allaire qui habite Blois et quelques autres hein, pour lesquels je suis un salopard. Hein.
Il y a évidemment une bataille mémorielle, notamment autour de la guerre d'Algérie. Il y a des mémoires de soldats français sur cette guerre. Il y a des mémoires et des associations. L'association La FNACA, plutôt de gauche. Il y a une autre association de combattants aussi.
C'est l'UNCAFN, c'est-à-dire celle qui est plutôt de droite. Mais enfin, faut pas non plus là être rigoureux avec une barrière entre les deux. Hein. Non, il y a des gens de droite qui sont à la FNACA, il y a des gens de gauche qui sont à l'UNCAFN. Mais la majorité des gens de la FNACA sont de gauche et la majorité de ceux de l'UNCAFN sont de droite. Bon, alors chacun a vu midi à sa porte, hein, chacun a interprété les événements à sa façon, certains avec beaucoup de justesse, d'autres avec plus ou moins de fantaisie, voire de bluff.
Qu'est-ce qui serait les grands piliers philosophiques de pensée de la FNACA? Qu'est-ce qui fédère les gens qui sont autour de la FNACA?
Je pense que c'est cette idée majeure que tout peuple doit être libre de choisir sa propre voie. Autrement dit, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui était déjà chère à Napoléon III, hein, faut s'en souvenir de ça, et qui a été repris par beaucoup de gens ensuite, mais qui n'a pas toujours été appliqué, loin de là. Donc, c'était ça, je crois, qui est la base première, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes.
J'aimerais que tu évoques les circonstances de parution de ce bouquin pour l'honneur de l'armée. Réponse au général Schmitt sur la guerre d'Algérie. Ça commence sur un plateau de télévision sur lequel tu n'es pas. 6 mars 2002, France 3, Culture et Dépendance, chez Franz-Olivier Gisbert.
À la suite du triptyque présenté par Patrick Rothman, l'ennemi intime, je suis l'un des principaux témoins. Il y en a d'autres, bien sûr. Et après le troisième volet, il y a eu cette émission Culture et Dépendance de Franz-Olivier Gisbert sur le plateau duquel il y avait les principaux protagonistes de ce film. Patrick Rothman, bien entendu, en première ligne. Gisèle Halimi, moi, je n'ai pas été invité. Je n'y suis donc pas allé. Et pourtant, j'ai eu droit à toutes sortes de noms d'oiseaux de la part du général Schmitt, qui lui était l'un des principaux invités.
Alors, quelles étaient les fonctions de Schmitt à l'époque, pendant la guerre d'Algérie?
Schmitt, pendant la guerre d'Algérie, il était petit lieutenant faisant partie du bataillon Bijard.
Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN.
Il a fait la bataille d'Alger, étant chef d'un centre d'interrogatoire
à l'école Sahraoui, qui se trouvait dans les parages d'Alger, où étaient internés tout un tas de suspects, interrogés sérieusement, c'est-à-dire torturés. Les renseignements étaient exploités après ça par les différentes compagnies du bataillon Bijar dans le cours de la campagne d'Alger. Et lui, Schmitt, avait ce rôle-là d'être chef de ce... Il n'a pas fait que ça pendant toute la bataille d'Alger, hein, mais il a été à un bon moment comme chef de ce centre d'interrogatoire. C'était pas à attendre parce que tous les témoignages que l'on a de la part d'Algériens qui ont été torturés le représentent comme ayant participé lui-même aux interrogatoires, hein, ayant torturé lui-même, faisant tourner la gégène par un soldat et puis lui procédant aux interrogatoires, faisant arrêter le tournage de la gégène à son ordre ou le faisant reprendre, etc., jusqu'à ce qu'il ait les renseignements importants. Voilà ce qu'il a fait donc pendant une partie de son séjour en Algérie. Alors c'est lui qui après ça se permet sur le plateau de télévision de m'accuser de faux témoins, de menteurs, je sais plus comment, calomniateurs, je sais plus, de tristes sires, parce que, dit-il, moi j'ai fait assassiner 14 otages. Et alors ça, il me dit, c'est ce que faisaient les Allemands pendant la guerre. Vous avez obéi à des ordres, vous auriez dû refuser. Dans mon régiment au 3e RIMA, commandé par Bijar, jamais aucun officier n'aurait exécuté de tels ordres. D'ailleurs, personne ne nous aurait donné de tels ordres. Ces ordres, ils m'étaient donnés par le colonel Leray, qui fut un grand résistant et qui là-bas était commandé un secteur, le secteur d'Elmia d'abord, le secteur de Biskra ensuite. Mais ce que Schmitt oublie de dire, c'est que des tas d'historiens ont donné des preuves que son chef à lui, Bijar, et puis son autre chef, Trinquet, ont commis les pires exactions, qu'ils ont dirigé des représailles massives, alors que aucun historien n'a accusé Leray d'avoir fait ça. Hein, c'est vraiment invraisemblable, une chose pareille, que cette espèce de Schmitt ose mentir à ce point en disant « Moi, mes chefs n'ont jamais fait ça », en sous-entendant que Leray a été un salopard, quoi. C'est ignoble. C'est incroyable. Incroyable. Bon, alors moi, je lui en veux terriblement, à ce Schmitt. Alors, il vit toujours, hein, je sais qu'il est... S'il m'entend, ça, j'en ai rien à cirer, hein, c'est ce que je pense. Il est à Marseille, et là-bas, il a beaucoup de notoriété. Hein. Il est une personnalité du coin, parce qu'il est général. Il a été général à 4 étoiles. Il a été chef d'état-major général des armées, c'est-à-dire la plus haute fonction dans l'armée française pendant plusieurs années. Et ça m'est complètement égal de dire ça de lui, parce que c'est la vérité, et je suis prêt à le dire entre quatre yeux, ça me dérangerait absolument pas.
Cette réponse au général Schmitt pour l'honneur de l'armée est fort bien sentie, et tu démontes point par point ces accusations en les étayant de preuves et de documents indubitables. En tout cas, quand il te traite de triste sire, il a au moins tort sur ce point-là, parce que tu n'es pas quelqu'un de sinistre, malgré toutes les choses tristes que tu as dû affronter dans la vie.
Oui, oui, on va ça. D'accord, ben il faut bien.
Vous l'aurez compris, il y a des militaires qui ont beaucoup de mal à regarder en face les vérités de la guerre d'Algérie. Ici, d'anciens tortionnaires comme le général Schmitt, qui fut un temps chef suprême des armées françaises, et qui accuse Pat d'avoir obéi aux ordres que lui donnaient ses supérieurs. C'est absurde. Quand la mauvaise foi d'un arracheur de dents le dispute à la bêtise et à l'ordure. Pat a été blessé de ne pas pouvoir publiquement laver son honneur de soldat fidèle à la République. Un soldat qui a obéi quand on lui a demandé de participer à l'exécution d'otages.
Il m'accuse, moi, et puis indirectement le colonel Leray, mais tous les autres, il n'en dit pas un mot. Or, lorsque Leray a décidé de désigner des otages, des types qui avaient quelque chose à se reprocher au sein du FLN, ils étaient convaincus de connivence plus ou moins active avec le FLN,
Mais Le Ray a donné des ordres à moi, me disant de désigner les otages, c'est-à-dire j'étais chef du deuxième bureau, c'était mon boulot, sur le vu des fiches de chacun, que je choisisse ceux qui me semblaient à moi les plus propres à être exécutés. Alors, j'ai eu comme critère le fait que je voulais pas que ce soit des jeunes, donc j'ai pris les plus âgés, j'ai pris ceux qui jouaient le double jeu, c'est-à-dire qui étaient bouillés à la fois dans le FLN et au sein de l'armée française. Donc, c'était ça mes deux critères principaux. Mais j'ai certainement failli à cette règle-là. Hein. Je peux pas, en très peu de temps, quoi, avoir pu faire quelque chose de sérieux. Mais enfin, j'ai essayé de faire pour le mieux dans ce sens-là. Mon rôle, c'était ça, de faire le choix. Mais le chef du troisième bureau, son rôle, c'était de donner des instructions à un chef de bataillon qui les répercutait sur un commandant de compagnie pour désigner une section chargé de procéder à l'exécution. Voilà des gens qui étaient aussi compromis que moi. Il y avait le chef du quatrième bureau qui fournissait les camions, qui fournissait les munitions. Il était aussi compromis que moi. C'était pas le même genre de travail, mais ça procédait d'un ensemble. Et le tout étant supervisé par notre chef d'état-major, qui s'appelait le commandant Caraballona, chargé de régler tout comme ça doit l'être pour le mieux. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, lorsque Schmitt me désigne, moi, comme le responsable, bon, bah, il oublie que tous les autres avaient un rôle aussi. Voilà.
Il s'en passe des choses sous ton crâne, rasé. C'est plein de tristesse et de kiff. Tu te vois encore en tenue léopard, bourré d'explosifs. Sauter de ton aéroplane.
La nostalgie comme un roi. La nostalgie comme un roi.
Lettre du général de corps d'armée Bernard Gillis, de l'association Soutien à l'armée française, à Pierre Alban Thomas, Paris, le 21 avril 2002. Monsieur, j'ai coutume d'appeler mes anciens ou mes jeunes de l'armée mon cher camarade. Votre cas, cela me paraît inopportun et surtout source de confusion. En effet, vous avancez derrière la pancarte communiste. Or, les adeptes de cette idéologie, maintenant en miettes, avaient coutume de s'appeler camarades. Et vous pensez qu'elle peut encore vous servir de bouclier ? À telle enseigne que vous vous permettez de traiter les harkis de miliciens pendant la résistance. Je pourrais vous traduire pour injure publique. Demandez à votre préfacier, Monsieur Pierre Vidal-Naquet, pour avoir injurié les harkis sur le même mode, collabo, il a perdu. Agissant comme témoin, le procès que j'avais intenté à son compère, Péju, porteur de valises patentées. Vous vous proclamez communiste. Vous êtes entré en idéologie au moment de la génération stalinienne. Celle des Yvetons, Maillot, Audin. Or, ce sont bien les armes livrées à l'ennemi par Maillot qui ont tué 23 appelés le 15 février 57 près de Duplex en Algérie. À la même époque, vous avez fait exécuter 4 civils à El Milia et 11 à Biskra. Sur ordre ? Et alors ? Et l'idéal communiste, celui du parti des fusillés ? Dans votre cas, ce mot fusillé résonne de façon accablante. Par ailleurs, cessez de vous protéger par l'amalgame habituel, mais frelaté, entre résistance aux nazis et guerre d'Algérie. C'est une mystification dont le seul but est de faire croire que les porteurs de valises étaient des résistants alors qu'ils étaient des traîtres. Sur le chapitre de la résistance, nous n'avons de leçons à recevoir de quiconque et surtout pas de la faction dont vous vous réclamez, les FTP, Milice d'obédience communiste, dont la direction politique et militaire était plus disposée à vénérer Staline qu'à respecter l'autorité de la République française, incarnée à l'époque par De Gaulle. Alors miliciens pour miliciens, réglez vos comptes entre survivants du communisme et du nazisme, mais ne touchez pas à ces valeureux soldats qu'ont été les harkis. Avec mes salutations, général Bernard Gillis.
Il s'agit de l'association de soutien à l'armée française. Ce général m'a écrit un jour, en ayant lu mon livre « Les désarrois d'un officier en Algérie », édité au Seuil, d'ailleurs il m'a écrit par l'intermédiaire des éditions du Seuil,
Et il m'a écrit pour me dire tout le mal qu'il pensait de moi. J'étais un traître, etc. Et alors donc, je me suis empressé de lui répondre d'une façon humoristique, en me moquant de lui, en disant que s'il y a vraiment un traître à la véritable France et à l'idée que le monde se fait de la valeur de la France, c'est lui plus que moi.
Réponse de Pierre-Alban Thomas au général Bernard Gillis. Blois, le 6 juin 2002. Monsieur, votre lettre du 21 avril, anniversaire du putsch de 1961 et succès de Le Pen aux élections, double coïncidence, ne m'inspira que mépris et fut proche de la mise au rebut. Me ravisant, je pense vous devoir une réponse. Tout d'abord, je n'ai pas de leçon de résistance à recevoir de vous. Oui, je fus FTP et j'en suis fier. Car bien que vous nous assimiliez outrageusement aux miliciens, nous avons accompli notre devoir de patriote anti-nazi mieux que beaucoup de nos concitoyens. Déjà, en octobre 1940, j'étais agent P1 au réseau du Musée de l'Homme, numéro 39775 des FFC. Avez-vous adressé une lettre aussi injurieuse à l'un des 6500 engagés sous l'uniforme SS dans la Légion des volontaires français contre le bolchevisme ? Constatant votre orientation politique, il est permis d'en douter, bien que la Russie soviétique fût alors notre héroïque allié. Auriez-vous oublié que le général de Gaulle, auquel vous vous référez, condamné à mort par les tribunaux de Pétain, puis plus tard par l'OAS, intégra en 1945 des ministres communistes dans son gouvernement ? Comme de nombreux Français, dans ma jeunesse, je crus le communisme capable d'apporter le bonheur sur Terre avant de constater et refuser ces dérives inadmissibles. Je l'explique sur mes deux livres de souvenirs, mais vous n'en tenez nul compte, selon des méthodes antidémocratiques bien connues. Il en va de même des harkis pour lesquels j'exprime toute ma compassion. J'ai toujours considéré la harka rattachée à ma compagnie à l'égal de mes propres chasseurs FSE et FSNA. Ce qui n'empêche pas d'admettre qu'aux yeux des patriotes algériens, ils furent des traîtres comparables à nos 35 000 miliciens. Concernant la guerre d'Algérie, nous n'avons pas la même conception de l'honneur de l'armée. Moi, c'est en disant la vérité. Vous, en la dissimulant, bafouant ainsi la belle devise de votre association. Dans le duel qui opposait ma conscience à l'obéissance, j'ai choisi cette dernière, comme presque tous les combattants d'Afrique du Nord. Et je le regrette. Aurais-je dû, comme Bollardière, refuser d'exécuter les ordres, ce que votre ami Schmitt prétend que j'aurais dû faire, ou déserter, comme Favrelière ? Que ne m'auriez-vous alors qualifié de traître ? Depuis, j'aurais pu rester silencieux. Personne n'aurait rien su de mes activités dans un service de renseignement. Je pourrais ainsi, aujourd'hui, jouer les vierges effarouchées ou les donneurs de leçons, comme d'aucuns qui se livrèrent pourtant à bien d'autres exactions que moi et mon colonel. Rien qu'à Alger, en 1957, sous la toute-puissance de la 10e division de parachutistes, 3024 disparitions d'Algériens furent dénombrées par Paul Tedjen. Se taire ou déguiser la vérité n'est que lâcheté, et c'est vrai autant pour le FLN que pour les Français. Avec mes salutations, Pierre-Alban Thomas, vice-président du Musée de la Résistance de Blois. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu continues à te disputer, que ce soit de manière épistolaire ou autre, avec des gens qui n'ont pas les mêmes souvenirs que toi ?
Oh, bien sûr, sans quoi la vie serait un long fleuve tranquille et d'une monotonie incroyable. Il faut bien que chacun donne son opinion et puis se confronte. Alors ce qu'il ne faut surtout pas, c'est en venir au point, quoi. C'est faut que ça reste quand même entre gens civilisés et de bonne compagnie, qu'on dise chacun ce qu'on a à dire, sans embâge, mais sans compromission.
Et voilà les amis, c'est bientôt la fin du dernier épisode de cette histoire de Pat, irréprochable patriote, héros de la résistance, militaire par amour de la République, héritier de la Révolution française et des premiers socialistes, militant au cœur toujours rouge et vert aussi. Un homme remarquable qui, toute sa vie durant, sans fuir ses responsabilités, ses dilemmes et ses combats intérieurs, a essayé d'être juste et bon, tout en sachant que ce n'est pas facile dans la société des hommes. Vous avez aussi, au cours de ces 11 heures écoulées, survolé 22 années d'une histoire de France telle qu'on la raconte peu ou pas, de 1940 à 1962.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration.
Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Et voici maintenant quelques messages personnels. Père Noël à Pitchounet, 6 amis viendront vous voir ce soir. Le sanglier se porte gentiment. Le cheval bleu se promène sur l'horizon 2 fois.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
En Indochine, la guerre continue. Les forces franco-vietnamiennes ont déclenché une nouvelle offensive dans le delta tonkinois pour nettoyer la région des rizières au sud de Haïphong.
Hanoï, grâce à l'action efficace des troupes françaises, a été rapidement dégagée. Mais les bandes vietnamiennes mènent toujours dans la campagne une lutte sporadique. Il faut combattre.
La raison et la paix l'ont emporté. Le cessez-le-feu a été signé.
Troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint.
Il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, on ait voulu lever le pavé contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français.
En Algérie, dans la région de Blida, où les rebelles se sont manifestés ces derniers temps, les parachutistes ont accompli en 48 heures une action de nettoyage et de pacification totale.
Je vous ai compris!
De torture ne s'est produit à ma connaissance ni à la vôtre depuis la venue à Alger du général.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française.
Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques.
Le cessez-le-feu entrera en vigueur demain à partir de 12h.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Toi qui as fait 28 ans dans l'armée, avec tous les drames auxquels tu as été confronté, avec le recul, puisque tu as aussi fait l'école normale, normalement tu aurais dû être instit. Est-ce que tu n'as pas regretté de ne pas être instit? Tu t'es pas dit, bon... L'armée, finalement, ça a été bien triste.
J'ai regretté, oui, de ne pas être dans l'enseignement. Je ne sais pas si c'était instit ou autre chose, puisque j'aurais voulu être professeur d'agriculture. C'était ça, mon dada. Mais bon, ça, je l'ai regretté, parce que je me destinais à éduquer des jeunes Français. J'aurais aimé aussi être médecin pour... guérir des plaies, soigner, ça c'est quelque chose qui m'aurait plu. Et puis ma vie a été l'inverse, elle a consisté à tuer des gens, à m'attaquer à la vie des gens au lieu de la sauver. Et ça c'est un des regrets de ma vie, mais c'est ainsi. Les événements ont fait que je me suis orienté dans cette voie-là. J'aurais déjà raconté, je ne vais pas le redire une fois de plus, que les conseils que m'a donné le Parti communiste, bon, pour rester dans l'armée. Je reviens pas là-dessus.
Vous êtes enfin arrivé au bout de ce voyage dans le temps qui, il y a 10 épisodes, a démarré en 1922, date de la naissance de Pat, et qui vous a débarqué en 1962. Un grand merci à Pat pour son courage, son honnêteté intellectuelle, son humilité, sa confiance, sa gentillesse. Vous retrouverez bientôt notre ami dans un reportage au musée de la résistance et de la déportation de Blois. où, avec ses copains résistants de toute obédience, il accueille le public, rencontre des jeunes, sans parler des établissements scolaires qu'il écume depuis des années. Vous pouvez en attendant réécouter toute cette série www.polemix et la voix off.com. Salut !